Bonjour à chacune, à chacun. Il y a Roger qui vient de me souffler que si on avait vraiment la foi, il aurait plutôt fallu compter sur la multiplication des gobelets. C'est pas arrivé, mais bon, on y croit pour la prochaine fois peut-être. Je ne sais pas. Vous avez vu cette magnifique image qui orne aussi maintenant notre page d'accueil du site internet. C'est une image qui se veut illustrer un peu cette thématique que l'on traite dans nos cultes ces derniers temps, sur le changement, les choses qui changent, qui bougent autour de nous et qui ont des conséquences sur les personnes, l'environnement qui nous entoure. Et puis là, on voit notre logo, c'est pour dire que voilà, en tant que frat, effectivement, ça peut bouger autour de nous. Et ce que nous vivons aussi à l'intérieur de notre communauté peut avoir des conséquences ailleurs, notamment sur notre ville, parce que nous sommes ici au cœur de la ville. On vit une période de changement et dimanche prochain, on en aura encore une illustration, puisqu'on aura une rencontre importante où deux nouvelles personnes sont pressenties pour rejoindre notre conseil. Et puis, c'est un changement encore là que l'on peut remettre devant Dieu dans toute notre confiance. J'ai aussi regardé pour savoir justement dans notre ville de Nyon, savoir si c'était une ville plutôt stable ou bien plutôt mobile avec plein de changements. Et je suis allé me balader sur le site de la municipalité et puis j'ai regardé les différentes caractéristiques de la population nyonnaise. Alors je vais vous faire un petit quiz. Combien vous croyez qu'il y a de résidents nyonnais pour pure souche à Nyon à l'heure actuelle, fin 2016. Qu'est-ce qui pense plus que 30%? 3. Qu'est-ce qui pense plus que 20%? 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qui pense plus que 10%? La grande majorité. Qu'est-ce qui pense moins que 10%? J'ai dit qu'il y a trois questions, c'est vrai. Vous avez bien fait d'attendre la dernière. Parce qu'effectivement, il y en a moins que 10%. Seulement 8% de la population de Nyon est considérée comme étant nyonnaise de souche. Et puis si on y inclut les résidents vaudois, c'est-à-dire tout le canton de Vaud, qui est quand même un assez grand canton, on arrive seulement à un quart de la population totale. Et puis, si on ajoute encore tous les Suisses, là c'est plutôt moi qui en fais partie, là je fais partie de cette catégorie statistique, vous pensez qu'on arrive à combien? Qui est-ce qui pense qu'on arrive à plus que 80%? 70%? 60%? Ah quand même, il faudrait une fois y arriver. La bonne réponse, c'est 60%, effectivement. 60% de la population de Nyon est d'origine suisse, ce qui signifie que 40% de cette même population de Nyon est d'origine étrangère. Puis je ne sais pas pour les plus vieux parmi nous, je pense que là, vous voyez un changement notoire, un changement important, juste de qui compose cette ville de Nyon. Et puis sur ces 40% de population étrangère, j'ai été complètement scotché par un chiffre. Puis je vous fais la dernière question de la matinée. Étant donné qu'il y a 197 pays dans le monde, qu'est-ce qui pense qu'il y a plus que 100 nationalités différentes à Nyon? Il y a plusieurs réponses qui sont possibles, je n'ai pas compté qui fait quoi évidemment. Plus que 120. Ça, vous pouvez lever les mains souvent, c'est parfait. Plus que 150. Vous avez raison, il y a 130 nationalités différentes à Nyon. Je trouve que ça, c'est le nombre qui m'a le plus scotché. 130 nationalités différentes sur une population de 20 000 habitants. C'est dire que l'on est mélangé, c'est dire que dans nos villes, quoi qu'on en pense, c'est ça la photographie à fin 2016, 130 nationalités différentes qui se côtoient. La semaine passée, on a parlé d'un homme qui nous a marqués tous, je crois, qui s'appelle Abraham. Cet homme, Dieu lui a ordonné de changer de pays, d'aller dans un autre endroit, là où il était étranger, pour s'établir, dans le pays qu'il allait donner plus tard à tout son peuple. Et puis, je vous ai aussi parlé de la promesse qui accompagnait ce changement qui était ordonné par Dieu. Et puis, en rentrant à la maison, puis j'ai aussi posé comme question, mais quelles sont les promesses que Dieu a mises sur vos vies? Quelles sont les promesses que vous pouvez vous approprier pour vos vies qui vous font aller de l'avant? Et puis, j'arrive à la maison, puis évidemment, mon critique le plus féroce, mon épouse, m'a dit, mais David, ta question, elle était quand même hyper compliquée parce que tout le moment de méditation que tu nous as donné, je me suis demandé, mais quelle était vraiment la promesse de Dieu pour moi? Est-ce qu'il y en avait une pour moi, laquelle je pouvais m'approprier? Puis j'ai dit, ben, réfléchis et médite. Tu verras bien ce que Dieu te dit et ce que Dieu te met sur ton cœur. Mais ce matin, j'aimerais vous en proposer deux qui émanent de nouveau de Dieu pour Abraham. Et je crois qu'elles sont aussi pour nous. Deux promesses qui sont comme des socles sur lesquels on peut bâtir notre foi, nos vies, dans un environnement qui change. Parce que si tout change, et puis c'est une réalité dans notre environnement à l'heure actuelle, c'est même une réalité dans notre vie d'église, les promesses de Dieu, elles, ne changent pas. Elles restent valables. Et on va voir que c'est complètement vrai, encore maintenant, en ce 17 septembre 2017. Et j'aime bien dire, avec ce que Roger nous a dit ce matin, qu'en étant là ce matin, on est des adorateurs du Dieu vivant. On l'adore par notre louange, on dit qui il est pour nous. On dit ce qu'il fait dans nos vies, on lui offre notre reconnaissance. Et puis moi, c'est aussi un grand soutien de vous voir là, parce que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez aussi décidé d'être à l'écoute de sa parole, à l'écoute précisément des promesses que Dieu formule pour nous, que Dieu formule pour son peuple. Et ces promesses, ce n'est pas moi qui les invente, c'est ces promesses que je tire directement de la parole de la Bible. Genèse 12, le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, qui te bafouera, je le maudirai. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et un peu plus loin, Genèse 15, le Seigneur lui répète sa promesse. Après plusieurs péripéties, il a besoin, Abraham, de réentendre cette promesse sur sa vie. Et alors la parole du Seigneur lui parvint. Il lui dit, « Ce n'est pas lui, cet Éliézer de Damas, un étranger de sa famille, qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. » Il le mena dehors, donc Dieu mène dehors Abraham et lui dit, « Regarde le ciel, je te prie. » Et compte les étoiles, si tu peux par hasard les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Et Abraham mit sa foi dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. On voit notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance, le Dieu que nous adorons, et un Dieu qui ordonne des changements, et dans le même temps, un Dieu qui accompagne les changements de sa présence, de ses promesses. Dieu est l'auteur même de ces deux promesses qu'il laisse à Abraham, d'avoir une descendance et d'être en bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et ça nous renseigne également sur Dieu et sur sa nature profonde. Oui, c'est un Dieu qui ordonne des changements qui peuvent être parfois compliqués ou inaudibles pour nos petites oreilles humaines. Mais oui, dans le même temps, c'est un Dieu qui nous accompagne pour mener à bien ses promesses. Ce n'est pas Dieu qui nous laisse en plan là où nous sommes, à nous débrouiller tout seuls comme des bébés nageurs. C'est un Dieu qui nous soutient, qui nous prend par la main et qui nous fait aller là où il veut aller, là où il a prévu que nous allions. Et un Dieu qui fait des promesses, c'est un Dieu qui me plaît. Ce n'est pas un Dieu qui reste scotché sur le passé, mais c'est fondamentalement un Dieu qui regarde vers l'avenir. qui n'a pas peur de l'avenir, mais qui nous promet un avenir qui sera accompagné de sa présence. Et ça change tout sur la perspective de Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu poussiéreux, ce n'est pas un Dieu qui n'appartiendrait qu'au passé, même si l'Église elle a plus de 2000 ans. Dieu, fondamentalement, est un Dieu qui formule des promesses sur la vie de son Église et sur nos vies personnelles. Ce n'est pas un Dieu qui reste scotché dans les situations présentes, c'est un Dieu qui regarde de l'avant et qui nous pousse en avant. Un Dieu tout sauf statique, car c'est un Dieu qui promet. On pourrait dire, mais c'est une promesse, c'est bien joli, cette promesse d'être en bénédiction pour toutes les familles de la terre, mais cette promesse, elle concerne finalement qu'Abraham. C'est à lui que c'est adressé. Comment ça se fait que nous pouvons nous l'approprier? Et là, je me réfère à l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, et je vous lis ces quelques versets qui nous concernent directement. Galates 3, au verset 6, « Ainsi Abraham crut Dieu. » Et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, homme de foi. Je suis toujours fasciné par cette incroyable unité de la parole de Dieu. De voir comme elle répond, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on a exactement le même message. Et cette promesse de Dieu, que Dieu fait à Abraham, Paul se la réapproprie complètement pour mener à bien sa mission auprès de tous ceux qui ne sont pas juifs. Et le premier gros clash de l'Église, je ne sais pas si vous vous souvenez lequel c'est, mais il nous est relaté dans Actes 15, et c'est précisément un clash de croissance, peut-être qu'on en aurait aimé plus, des clashs de croissance dans l'Église, parce que c'est lorsque Paul décide de ne pas concentrer sa mission simplement sur son peuple à lui, mais qu'il décide précisément d'aller vers les non-juifs, d'aller vers toutes les nations de la terre pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et pour ce faire et pour donner l'argument décisif lorsqu'on lui dit « mais ce n'est pas vers eux que tu dois aller annoncer cette bonne nouvelle », Paul s'appuie sur cette promesse que Dieu a donnée à Abraham. Vous imaginez la postérité de cette promesse de Dieu? À quel point elle se réalise dans cet homme, Paul, qui était un persécuteur de juifs, juif persécuteur de chrétiens, qui reçoit cette révélation de Dieu et qui peut s'approprier tout à nouveau cette promesse que Dieu a faite à Abraham des centaines, voire des milliers d'années auparavant. L'impact des promesses de Dieu sur nos vies et à travers le temps. Je trouve ça absolument fascinant. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Par ces quelques mots, Paul ouvre grand, et cette ouverture n'est toujours pas terminée. Elle continue de se vivre en live actuellement, au cœur de nos églises, au cœur du royaume de Dieu qui avance. Et nous en sommes. Nous en sommes de cette église qui avance, nous en sommes de ce royaume de Dieu qui avance, ici, là où il nous a placés. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. On voit une progression assez extraordinaire de cette promesse de Dieu qu'il fait à Abraham. On part d'un homme, un seul homme, Abraham. Ensuite, sa famille proche, Sarah et Isaac qui va naître. Puis au commencement d'une descendance, Jacob, tous les fils de Jacob, jusqu'à l'éclosion d'un peuple, le peuple d'Israël. Je vais vite, là. Depuis, et de ce peuple sortira Jésus, le fils de Dieu, qui est à la tête de son Église. Tout part de cette promesse qui est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de savoir Dieu avec les hommes sur leur chemin de vie. Croyons-nous vraiment que nous sommes toujours dépositaires de cette même promesse? Croyons-nous que le peuple que Dieu a choisi est un peuple choisi pour être en bénédiction et porteur de bonnes nouvelles? être en bénédiction pour nos familles et pour toutes les familles de la terre. Sommes-nous à disposition de Dieu pour cette promesse? Est-ce qu'on sent faire partie de cet immense mouvement initié il y a plusieurs milliers d'années? Encore une fois, il n'y a rien de nouveau dans cette promesse. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous la connaissons bien. Mais à l'instar d'Abraham, qui nous l'avons vu la semaine passée, s'approprie son destin qui change, je nous invite vraiment à nous réapproprier cette promesse d'être en bénédiction non seulement pour nos familles, mais pour toutes les familles de la terre. Nous réapproprier cette promesse de Dieu qui nous mobilise. Et on le voit, cette promesse de Dieu, c'est un peu le contraire d'une promesse d'un politicien. Car c'est une promesse qui nous engage personnellement sur une voie. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, Dieu n'est pas celui qui affirme vouloir tout faire pour nous, résoudre tous nos problèmes, nous offrir toutes les solutions, comme ça, en claquant les doigts, par miracle. En ce sens-là, il est assez différent de pas mal de politiciens. Puis je me dis toujours que c'est presque un miracle de croire que les gens gobent à ce que les politiciens peuvent parfois dire en promettant monts et merveilles. Je me demande si le miracle n'est pas des fois là. C'est pas un peu bizarre cette image, parce qu'on a souvent l'impression que Dieu, c'est un Dieu justement qui pourrait tout faire à notre place, parce qu'il est tout puissant. Normalement, l'image correcte qu'on devrait avoir de Dieu, c'est précisément cette image d'un politicien qui dit « Je vais vous résoudre tous vos problèmes de santé, de loisirs, de je ne sais pas tout quoi, pour vous donner cette vie épanouie. » Oui, il est tout-puissant. Et dans sa toute-puissance, il décide en toute souveraineté de choisir un homme, puis une famille, puis un peuple, puis une église, comme témoin de qui il est. Un Dieu qui bénit, et par nous, un Dieu qui peut bénir toutes les familles de la terre. Croyons-nous que le cœur de notre mission est d'être en bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il le répète deux fois, Abraham, parce qu'il a de la peine à comprendre. Il y a les péripéties de la vie, on l'a vu. Il y a des hauts, des bas, il doit partir, il doit s'exiler, on se demande sur quel pied il doit danser. Et il a besoin qu'on lui répète. Comme nous, on a besoin qu'on nous répète cette promesse. Croyons-nous que nous pouvons être en bénédiction pour toutes les familles de la terre. Le message de cette grâce, de cette bénédiction venant de Dieu et dont nous sommes ses témoins. Et là, je pense que vous avez compris que je vais rejoindre le quiz du départ. Et là, avec cette promesse, on rejoint précisément les changements qui sont à l'œuvre dans notre ville. Ces changements qui voient en quelques années, passer cette population de 15 000 habitants à 20 000 habitants, et cette augmentation de population qui se traduit par un accroissement de la diversité au cœur de notre ville. Et puis on le voit, hein, si on sort un petit peu, on le voit très précisément. Samedi passé, lorsque l'on était au quartier des Indes, dans l'état de Douai, on a vu toutes ces nationalités qui étaient là, qui venaient participer à ces activités, qui avait soif d'entendre cette bonne nouvelle, parce qu'ils ne la connaissaient juste pas du tout. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça pouvait être. Et par les décès d'Odersen, plusieurs ont été touchés, puis se dire, ah mais attends, moi ce Dieu-là, je n'en ai pas cette image-là, mais cette image-là que vous me présentez, elle m'intéresse, elle m'interpelle, elle me pose des questions. Ils sont là, à côté de nous. Moi, je n'étais jamais allé dans ce quartier, j'ai mis un quart d'heure pour trouver la place où c'était. Et pourtant, c'est à 5 minutes en vélo d'où j'habite. C'est un deuxième point assez fascinant dans nos villes au XXIe siècle, à quel point les quartiers peuvent être cloisonnés. Mais ces familles, toutes ces familles de la Terre, elles sont effectivement là. Puis, printemps passé, on a pu faire avec le conseil, inviter toutes les personnes qui étaient nouvelles dans notre communauté depuis à peu près une année. Et sur une vingtaine de personnes, il y avait 8 nationalités différentes. Donc, encore des exemples très clairs, très parlant, évident, de cette diversité qui est là, au cœur de nos villes. Et que cette diversité, elle va vraiment de pair avec cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Je trouve assez fascinant de me dire, cette promesse qui a été faite à cet homme, si je réfléchis sur ma situation, ici au cœur de la ville de Nyon, on peut vraiment la mettre en connexion de manière évidente. Et oui, nous avons une richesse à donner. Nous avons une bénédiction qui peut faire du bien à une multitude, aux familles qui sont autour de nous. J'en suis pleinement convaincu. En prenant cette promesse de Dieu avec nous, nous pourrons faire des vagues et des changements. Je termine par une dernière pensée, très pratique, donc évidente. Je vous ai parlé de cette progression de la promesse. Ça part d'un homme, ça touche sa famille, ça touche sa descendance, ça touche un peuple. Et en fait, au final, je veux dire, toutes les familles de la terre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans notre progression missionnaire, dans les changements que nous vivons, la même idée? De se dire que l'on est d'abord touché personnellement, après peut-être notre famille proche, après peut-être notre famille d'enfants, de petits-enfants, de neveux et nièces, mon église et ensuite toutes les familles de la terre qui vivent à côté de nous, ici à Nyon. Il y a quelque chose de très fort et de très pertinent dans cette progression que Dieu a voulu pour Abraham et que Dieu a voulu pour son peuple. Je crois qu'on est exactement placé dans cette même configuration. Ce n'est pas l'un, ma famille, au détriment de toutes les familles de la terre. C'est ma famille et toutes les familles de la terre. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Alors ma prière pour ce matin, pour nous, pour notre communauté, c'est que nous puissions nous approprier tout à nouveau cette promesse que Dieu fait à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen.